Bonjour, vous êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté. Alors avant de commencer cette émission de bien-être, de détente, installez-vous confortablement dans un endroit tranquille. Vous pouvez baisser les lumières et vous déchausser pour être plus à l'aise. Asseyez-vous sur un tapis et pour ceux qui sont moins souples, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou un fauteuil bien dur de façon à ne pas vous affaisser car il est important de garder son dos bien droit pour éviter des tensions et des douleurs. Dans la première partie, nous allons parler aujourd'hui de la vie des Sherpas. Puis nous continuerons avec la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Nous ferons ensuite quelques petits exercices physiques. Alors vous avez pu vous rendre compte que ce sont toujours à peu près les mêmes exercices qui reviennent. Mais il est très difficile de présenter à la radio une grande diversité de ceci et de difficultés croissantes. Toutefois, si vous intéresse, vous pouvez toujours aller consulter mon site qui est étirementyogaaveyron.com ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Nous ferons également une petite pratique de méditation bouddhiste tibétaine et nous terminerons sur la phrase de la semaine. Le peuple Sherpa est un groupe ethnique originaire du Tibet. En tibétain, Char signifie est et Pa est un suffixe qui signifie peuple. D'où le mot Sherpa ou Sherpa désignant ceux qui viennent de l'est. Il y a environ 500 ans, les Sherpas ont quitté la province du Kham, située dans l'est du Tibet, pour venir s'établir dans les hautes vallées himalayennes du Népal, notamment au pied du mont Everest. Les Sherpas sont au nombre de 154 622, selon les données du recensement de 2001. Ils font partie d'un groupe plus vaste qui habite tout le long de la frange nord du Népal, à la frontière du Tibet, que l'on désigne par le terme Bhotia en népali, lequel sert à identifier ceux qui viennent du Tibet par-delà l'Himalaya. L'habitat des Sherpas présente des conditions de vie parmi les plus rudes au monde. Les conditions climatiques y sont rigoureuses en raison des altitudes extrêmes. Le relief est très accidenté. Il n'y a pas de route, uniquement des sentiers pour relier les villages les uns aux autres. Les Sherpas doivent marcher pour se déplacer. Le transport des marchandises est effectué à dos d'homme ou à l'aide d'animaux de batte, notamment le yak et le dzo. Le dzo qui est un croisement entre la vache et le yak. Les Sherpas habitent principalement les régions du Solu, du Parak et du Khumbu au Népal. D'importantes communautés Sherpas sont également établies dans les régions adjacentes, notamment dans les vallées du lac Tang, du Rolawiling et de l'Elambu au nord de Katmandou. Les principaux villages Sherpas sont situés au Khumbu, lequel constitue le véritable cœur du pays Sherpa. Les Sherpas y sont nettement majoritaires. Namche Bazar, les Sherpas disent Noji ou Noche, comptant un peu plus de 100 habitations est le plus peuplé. Citons aussi Tamé, Koundé, Kunjung, Portse et Pamboche. Pamboche serait le plus ancien village Sherpa au Népal. Il aurait été construit il y a plus de 300 ans. Au nord de ces villages, plus haut en altitude, se trouvent des karkas, qui sont des zones de haut pâturage, comportant quelques habitations temporaires et quelques lodges. Les lodges sont des petites auberges rustiques destinées aux touristes de passage. Malgré leur nombre restreint, les Sherpas se retrouvent également dans d'autres régions du Népal, surtout à proximité des hauts sommets et dans les centres touristiques disposant d'une industrie hôtelière importante. Ils sont nombreux à Katmandou et à Pokhara, près du massif de la Napurna, dans le centre-ouest du Népal. Des communautés Sherpa importantes occupent la vallée de l'Arun, près du Makalu, dans le nord-est du Népal. Hors Népal, en Inde notamment, des communautés Sherpa sont établies dans les régions de Darjeeling, de Kalimpong, de même que dans l'état indien du Sikkim. Et on enchaîne avec la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Il arrive que les gens hésitent à pratiquer la méditation parce qu'ils ont peur de perdre leur ego. C'est souvent une phrase que j'entends. Alors, qui se rassure, on n'est vraiment pas prêt de perdre notre ego. Et ce n'est pas parce que les émotions sont moindres qu'elles ne s'élèvent pas encore. Simplement, lorsqu'on a une pratique régulière de la méditation, eh bien, on comprend mieux comment ça fonctionne et de ce fait, on se laisse moins piéger par les émotions. Mais là encore, il ne faut pas confondre bonheur et désir. Dans une des émissions précédentes, je vous avais cité comme phrase de la semaine celle de Barbey d'Aurevilly qui disait que le plaisir est le bonheur des fous et le bonheur est le plaisir des sages. Alors qu'est-ce qu'il entendait dire par là ? Eh bien, simplement que le désir est lié au plaisir. Par exemple, on désire avoir une belle maison, une belle voiture, on désire partir en vacances, etc. Donc, évidemment, tout ceci va nous apporter du plaisir. Mais sommes-nous vraiment heureux pour autant ? Alors que le bonheur est vraiment tout autre. D'abord, le bonheur n'est attaché à rien, parce que c'est un état intérieur. Le bonheur n'est pas lié aux émotions, alors que le plaisir, oui. En effet, lorsqu'une émotion s'élève, si on prend par exemple un être éveillé, eh bien, pour l'être éveillé, cela ne va pas le perturber, parce qu'il ne va pas se laisser emporter par ses émotions. Pourquoi ? Parce qu'il va voir tout de suite ce qui se passe. Et dans les faits, eh bien, il va être moins pris par cette émotion. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas s'y accrocher. Et de ce fait, eh bien, l'émotion, elle va se dissoudre d'elle-même, naturellement. plaisir, nous allons avoir peur de perdre ce qu'on aime. Alors que dans le bonheur, eh bien, il n'y a pas de peur. Parce que le bonheur est en nous. On pourrait l'associer à la paix intérieure. Et la paix intérieure ne peut intervenir qu'à travers un certain détachement. C'est un état qui nous suit partout et en différentes situations. Et tout ceci va se développer progressivement. C'est pourquoi la méditation est très importante, parce que c'est elle qui va nous permettre de comprendre de l'intérieur le fonctionnement des choses. L'esprit deviendra alors plus clair. Il sera alors plus facile pour nous de discerner la réalité des situations et ainsi prendre la bonne direction. Jigme Rinpoche dit « Plus notre comportement sera approprié et juste, plus notre potentiel sera positif, plus la vie sera facile à vivre, plus les conditions se réuniront pour nous permettre de faire ce que nous souhaitons. » Lorsqu'on veut planter une graine pour avoir une fleur, on va d'abord fertiliser la terre. L'engrais va nourrir la terre et ainsi permettre à la graine de se développer et devenir une fleur. Eh bien, au départ, dans la méditation, c'est pareil. On va apprendre à apaiser l'esprit. Apaiser l'esprit signifie revenir le plus souvent possible à une réalité toute relative, qui est par exemple la respiration. C'est s'entraîner à être présent à autre chose que ce que je me raconte. La plupart du temps, on n'est pas présent à ce que l'on fait, mais à ce qu'on se raconte. Et là, dans la méditation, on va entraîner notre esprit à couper un petit peu cette radio que nous avons tout le temps dans la tête. Et ceci va nous donner un peu d'espace, un peu plus d'oxygène. Ça va commencer à donner à notre esprit l'habitude d'être attentif à ce qui se passe. Et là, on va se rendre compte que ce n'est plus le moi, le je, mais que nous sommes alors dans un état d'ouverture. Et cela se passe au niveau du cœur. Exemple. Je vois une situation. C'est pas « je vois ce que la situation me fait », mais simplement « je vois la situation sans m'identifier à ». Et notre comportement va être alors complètement différent. Notre comportement va être beaucoup plus positif. Progressivement, nous allons développer des bonnes pensées, des bons concepts, et les choses vont se dérouler naturellement, avec légèreté. Et il n'y a pas de miracle là-dedans, mais tout simplement le fruit du mérite. Nous avons tous besoin d'harmonie dans notre vie. Et la communication avec les autres est très importante. Tout le monde le sait, mais la façon d'y parvenir est moins limpide. Mais nous pouvons tous atteindre cet état de paix, d'harmonie, si nous comprenons notre propre fonctionnement, nos propres fonctionnements qui sont destructeurs. Et la méditation va nous aider à nous transformer. Alors je vous rappelle que vous êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté, émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 20h et tous les dimanches à 9h, mais aussi sur internet. Vous allez sur Google, vous recherchez CFM Radio Villefranche et vous cliquez sur Namasté. Et nous enchaînons avec quelques petits exercices physiques. Donc, soit vous êtes assis sur votre chaise, soit vous êtes debout. Et on commence, comme d'habitude, par des rotations d'épaule pour bien lâcher les tensions du haut du dos. Donc, vous partez de l'avant vers l'arrière. Vous faites des cercles de plus en plus amples pour bien lâcher les tensions. Vous faites entre 5 et 10 fois. Puis vous partez tranquillement dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Vous faites des cercles avec vos épaules, bien amples, pour bien lâcher les tensions. Vous veillez à garder toujours le dos bien droit, la tête bien droite dans l'axe. Et maintenant, nous allons étirer le dos. Donc, en inspirant, vous allez monter sur le côté droit, votre bras droit. Vous l'étirez bien tout en haut, le plus près possible de votre oreille droite, les doigts bien étirés vers le haut. Et en expirant, vous descendez votre bras sur le côté. Vous faites la même chose à gauche, vous inspirez, vous montez votre bras gauche, étirez bien au maximum, puis expirez et descendez votre bras. Ensuite, vous serrez les paumes sur poitrine. En inspirant, vous montez lentement vos bras au-dessus de votre tête. Puis étirez, étirez, étirez au maximum. Et en expirant, descendez les bras de chaque côté du tronc. Recommencez, serrez les paumes sur poitrine. Inspirez, montez les bras. Amenez vos mains au-dessus de votre tête, puis étirez, 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 étirez. Et en expirant, descendez les bras de chaque côté du tronc. Vous pouvez faire cet exercice entre 5 et 10 fois pour bien étirer votre dos. Maintenant, vous allez assouplir un petit peu les chevilles, donc vous montez les talons alternativement. Donc vous montez bien le talon droit, vous passez bien sur la base des orteils droits. Puis vous posez le talon droit et vous montez le talon gauche, vous passez bien sur la base des orteils gauche. Et vous faites ce mouvement de plus en plus vite. Ça vous fait aussi travailler l'équilibre pour ceux qui sont debout. Pensez à garder le dos droit, la tête droite, les épaules ouvertes, et le mouvement doit être de plus en plus souple, de plus en plus léger. On va travailler un petit peu les genoux. Donc, pour ceux qui sont debout, vous serrez les pieds et les genoux et vous placez les paumes des mains sur les genoux. Vous avez les jambes fléchies et vous faites des cercles. 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre sens. Tranquillement, vous faites l'exercice pour bien assouplir vos genoux. Tous ces exercices, vous pouvez les répéter tous les jours pour essayer de garder une certaine souplesse dans votre corps. Et maintenant, ceux qui sont debout vont s'asseoir par terre sur leur tapis. Donc les jambes sont tendues, les pieds serrés entre eux. Ramenez les orteils vers vous, c'est ce qu'on appelle pied flex. Et on va faire le rameur. Donc vous placez le pouce gauche dans la main droite. Et en expirant, vous allez amener les poignets le plus près possible des membres inférieurs. Alors donc, si vous êtes très très souple, vous allez les amener près des chevilles, autrement sur les jambes ou les genoux. Il n'y a pas de problème. Donc à l'expiration, amenez bien les poignets près des membres inférieurs. Et en inspirant, vous partez un peu en arrière. Donc expiration vers l'avant. inspiration, vous partez un peu en arrière, sans trop quand même, pour pas tirer sur les lombaires. Pareil, c'est un mouvement que vous pouvez faire une dizaine de fois. Maintenant, vous allez, ceux qui sont assis sur leur tapis, vous allonger et vous allez essayer de vous concentrer sur votre respiration abdominale. Donc, vous avez les bras relâchés le long du corps, la tête droite dans l'axe, le menton légèrement rentré sur le sternum. Vous pouvez fermer les yeux pour bien sentir le mouvement du ventre dans la respiration. À chaque expiration, vous rentrez lentement le ventre. À la fin de l'expiration, vous relâchez le ventre, puis vous inspirez. Vous expirez à nouveau, vous rentrez lentement le ventre. À la fin de l'expiration, vous relâchez le ventre, puis vous inspirez. Vous continuez comme ça, tranquillement, l'exercice, tout en écoutant la musique. Enchaîne avec la pratique de la méditation bouddhiste tibétaine. Alors, si vous êtes allongé sur votre tapis, eh bien, vous allez vous asseoir en tailleur. Et pour les autres, eh bien, vous restez assis sur la chaise. Donc, n'oubliez pas de garder les jambes décroisées si vous êtes assis sur une chaise. Les pieds bien parallèles entre eux, le dos bien droit. Les épaules ouvertes, la tête droite. Et si vous êtes assis par terre sur votre coussin de méditation, eh bien, vous êtes en tailleur avec la jambe droite devant la jambe gauche. On peut prendre la moudra des mains en posant la main droite sur la main gauche, phalange sur phalange, pouce l'un contre l'autre. Les poignets sont posés sur les cuisses et les paumes des mains sont tournées vers le ciel. On garde les yeux ouverts de façon à ne pas se couper du monde extérieur. Et on garde le regard simplement posé vers le sol, sans fixer quoi que ce soit. Simplement poser le regard et ne rien faire. Parce qu'il n'y a rien à faire si ce n'est entraîner son esprit à être calme et détendu. Et on laisse les tensions tomber une à une. On détend les muscles du visage. Tout le corps est détendu tout en gardant quand même une certaine vigilance dans la posture. Saisit rien. On entend, mais on ne saisit rien. On voit, mais on ne saisit rien. On sent, mais on ne saisit rien. Si on a trop de pensées qui s'élèvent, on pose le regard vers le sol pour calmer un peu toute cette agitation mentale. Si au contraire on tombe dans la torpeur, dans une semi-somnolence, on dirige le regard un peu horizontalement vers le mur ou même un peu plus haut. Et si cela ne suffit pas, eh bien regardez à droite, à gauche, en haut, en bas, jusqu'à ce qu'on sente la conscience se réveiller. Si les yeux piquent ou brûlent ou qu'il y ait des larmes, c'est que vous fixez trop. Donc, si cela vous arrive, eh bien, vous montez alors un peu le regard, puis vous redescendez le regard et vous recommencez ce petit exercice 2-3 fois de suite. Si vous avez trop de saisie sur les pensées, bien, vous revenez tranquillement sur le souffle, sans juger, sans se dire « Oh là, je ne médite pas bien » ou « Alors là, je médite bien ». Une bonne pratique est une pratique qui ne se juge pas. Donc, on reste ainsi, sans commenter, sans analyser, juste concentré sur le va-et-vient du souffle, juste l'air qui entre, l'air qui sort, par les narines, sans saisir quoi que ce soit. On reste simplement le spectateur, l'observateur de tous les tourbillons mentaux, et on ramène l'esprit au calme en se concentrant sur le va-et-vient du souffle. Le souffle est ce qu'il y a de plus important. Dès qu'il n'y a plus souffle, il y a mort. Le souffle, c'est la vie, le mouvement. C'est ce qui anime. C'est le souffle qui unit l'esprit avec le corps. Respiration calme, mental calme. Respiration rapide, mental agité. On laisse élever les pensées sans les saisir. On reste juste concentré sur le souffle, le flux et le reflux. Pareil aux vagues sur la plage. Cette méditation est pratiquée par les lamas depuis plus de 25 siècles et il n'y a eu aucun accident, aucun danger en méditant sur le souffle. C'est une méditation avec laquelle on ne risque rien, quelle que soit notre personnalité. On garde les yeux ouverts sans s'occuper du sol ou du mur. On n'analyse rien, ni le chaud, ni le froid, ni les sensations, ni les bruits. On reste simplement l'observateur de tout ce qui s'élève à l'intérieur de nous et à l'extérieur, sans saisir quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire d'autre. Ce n'est pas la peine de penser au passé, puisque c'est le passé et qu'il ne reviendra pas. Ce n'est pas la peine non plus de penser au futur, parce que le futur ne se passe jamais comme on l'a prévu. Et quant au présent, il est indéfinissable. Si on se dit « je suis dans le présent », eh bien rien que le fait de le dire, c'est déjà passé. Donc, on est juste là, maintenant, et c'est tout. La méditation, ce n'est pas demain, c'est là, c'est maintenant. C'est ici et maintenant, en n'étant ni dans l'attente, ni dans le rejet. Ne rien vouloir, ne rien saisir, ne rien faire. Ce n'est pas l'extinction des désirs, mais l'apaisement des désirs. Tout est impermanent. Nous vivons dans l'impermanence. Tout change, tout se transforme d'instant en instant. même le souffle est impermanent. Après l'inspire vient l'expire, et après l'expire vient l'inspire. L'inspiration est longue, puis l'expiration est longue, puis l'inspiration est courte, et l'expiration est courte. Le rythme change aussi. Un coup il est long, un coup il est court. Le silence n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. On garde l'esprit complètement tranquille, spacieux, complètement ouvert aux cinq sens, sans rien analyser. L'ascète, tout seul dans sa grotte ou son ermitage, entend le chant des oiseaux, l'eau du ruisseau, les éléments. Il observe, mais sans commenter, sans analyser. Et il faut profiter du temps de la méditation que l'on vit pour pouvoir ensuite en tirer le bénéfice dans notre vie au quotidien. Et l'esprit devient de plus en plus clair. On est complètement ouvert au monde extérieur, mais on n'analyse rien. Juste rester là, tranquille. Juste apprivoiser le mental. Doucement le ramener sur le souffle dès qu'on se trouve dans la saisie. Tout bouge, tout se transforme à chaque instant. La vie est partout et on se sent vraiment vivant et vraiment en parfaite harmonie avec cette manifestation. Juste concentré sur le souffle, les yeux ouverts, le corps posé, l'esprit détendu et en paix.
Ah.
maintenant, voici la phrase de la semaine qui est une citation du Bouddha Siddhartha. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Voilà, nous arrivons au bout de votre émission Namasté, émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 20h et tous les dimanches à 9h, mais aussi sur Internet. Vous allez sur Google, vous recherchez CFM Radio Villefranche et vous cliquez sur Namasté. Pour les exercices d'étirement et de respiration, vous pouvez toujours aller sur mon site qui est étirementyogaaveyron.com ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation et vous dis à très bientôt, j'espère. Ortada koydun el gibi vay 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 sevdiğime pişman ettin vay
Limbura jule tara bagma.